Merci de votre fidélité au programme du Studio Kalangou et bienvenue dans l'Espace Femmes. Espace Femmes est une émission qui traite des questions qui concernent les femmes dans divers domaines de la vie courante. L'économie numérique représente 35% des exportations de services du Niger. C'est ce qui ressort des conclusions d'une enquête réalisée par l'International Trader Center, une agence conjointe de l'ONU et de l'OMC. De nos jours, les réseaux sociaux sont incontournables pour le développement du commerce dans tous les secteurs. De ce fait, les femmes, pour faire la promotion de leurs produits, utilisent ces derniers. Alors, comment améliorer les politiques et les droits pour les femmes en ligne et la gouvernance? La création des débouchés économiques qui rendent les femmes plus autonomes par la mise à l'essai et le déploiement d'innovations numériques, y a-t-il des avantages ou des inconvénients dans cette pratique? Comment renforcer l'accès à la technologie et les compétences nécessaires à la création et à l'innovation? Comme vous l'avez compris, le thème de l'émission de ce soir va porter sur l'autonomisation de la femme à l'épreuve du numérique. Pour les discussions, nous avons invité au studio Mme Yasser Maimouna Abouba, entrepreneur agro-business, et Mme Abdelaziz Bint Mahamadou, mentor espace sur Deutalagé. Je suis Rafika Taher pour la modération de cette émission. Force est de constater que certaines femmes n'utilisent pratiquement pas les réseaux sociaux. Le thème de la 28e édition de la Journée de la femme au Niger était « Plateforme multifonctionnelle, outils d'autonomisation de la femme ». C'est une occasion de favoriser la participation de la femme dans les secteurs porteurs de développement, les moyens numériques et de communication d'information. On va commencer par vous, Madame Yasser Maimouna. Qu'est-ce que cette pratique des femmes à la création du numérique peut avoir comme facteur de développement?
Alors, merci de me donner la parole. À l'ère du numérique, c'est très important pour nous en tant que chef d'entreprise, parce que c'est grâce à ces différentes plateformes qu'on se fait connaître d'abord. Et ces plateformes nous permettent également de vendre encore plus nos produits, de mettre des plans de fidélisation de nos clients et de maintenir vraiment cette clientèle fidèle. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par maintenir la clientèle fidèle, parce qu'il y a des clients qui ne sont pas forcément dans la zone où nous effectuons notre activité, qui sont dans une autre région, qui grâce au numérique aujourd'hui arrivent à se procurer nos produits peu importe où ils se trouvent. Et ils arrivent aussi à avoir les informations à tout moment. On n'a pas forcément besoin d'envoyer un message individuel. On a nos plateformes, nos différentes pages sur lesquelles on publie des messages, on communique assez dessus et le client, il a l'information en temps réel. Donc, c'est vraiment très important dans l'entrepreneuriat des jeunes.
Le 8 mars 2019, au Palais des Congrès, le projet de promotion et l'autonomisation de la femme et des jeunes filles par le numérique a été officiellement lancé par la première dame de l'époque. Depuis cette date de lancement officiel, est-ce qu'il y a eu des avancées? Est-ce que depuis ce lancement, les femmes utilisent plus l'Internet?
Il y a une grande prise de conscience par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. On a eu à faire des formations avec la Chambre de commerce, qui nous ont montré vraiment l'importance et l'impact que ça peut avoir sur nos entreprises. Donc les femmes, même celles qui ne sont pas forcément de la génération jeune, elles arrivent à manipuler l'outil. Elles ont pu créer des pages sur lesquelles elles font des publications. Elles arrivent à utiliser également, quand on parle de numérique, il y a aussi le WhatsApp Business, à travers lequel, qui est vraiment un outil spécifique à la vente en ligne. Donc, dessus, on a des catalogues où on fait la promotion de nos produits. Le client, quand il vous contacte, il n'a pas forcément besoin de laisser le message. Il a accès directement au catalogue qui lui permet de voir les différents prix des produits. Déjà, de savoir lui ce qu'il veut et laisser un message spécifique avec sa commande. Et c'est pas comme avant où quand vous appelez le client, il répond pas, vous n'avez aucune information. Là, l'outil WhatsApp Business, par exemple, il nous permet de laisser des messages quand on est indisponible. Donc, on peut dire au client, par exemple, je ne suis pas disponible, je vous appelle dans tel nombre de minutes, veuillez me laisser un message spécifique quant à votre commande. Donc ça, avant c'est frustrant parce que tu as besoin d'un produit et tu n'arrives pas à joindre celui qui le commercialise. Mais là, l'outil permet de mettre en attente le client et ça lui donne le temps également de lui passer sa commande. Et nous, on peut le voir, même si c'est 5-10 minutes après, et automatiquement on réagit. Donc c'est tout ça que le numérique a apporté en plus, en fait, de notre vie en général et même dans nos activités.
Donc les femmes et les filles utilisent plus
oui, de nos jours le numérique. Oui, ils utilisent plus parce qu'on voit l'importance, en fait. Maintenant, c'est vraiment indispensable, si on peut le dire. Quand on fait une activité, le numérique, il est incontournable.
D'accord. Et parlez-nous de votre activité. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Nous faisons la transformation agroalimentaire des fruits et légumes en jus naturel, mais aussi des épices en bouillon et assaisonnement destinés aux plats.
Comment est-ce que vous arrivez à écouler votre marchandise?
Nous avons une boutique qui est là. Et en dehors de la boutique également, nous avons quelques points de vente. Et comme je l'ai dit, nous avons des pages comme Facebook, Instagram et d'autres plateformes. WhatsApp Business aussi. Donc, on fait beaucoup de publications sur Facebook, Instagram. Et là, on a des clients qui commandent à travers ces différentes plateformes, en dehors de ceux qui viennent directement à la boutique, où il y a des clients qui ont eu à tester dans un point de vente. Il y a le numéro, ils nous contactent directement à travers le WhatsApp Business et passent commande, ou bien ils nous appellent directement des fois.
Est-ce qu'il y a beaucoup de clients qui visitent et qui achètent vos produits à travers Facebook, WhatsApp et autres là que vous nous avez cités?
Oui, il y a beaucoup de clients qui commandent à travers ces différentes plateformes.
On peut avoir des chiffres, par exemple, est-ce que ce sont des femmes ou des hommes?
C'est d'accord. Plus les femmes qui commandent. En ligne, généralement, c'est ceux qui ne sont pas sur place, qui sont peut-être en Belgique, à Dakar, en France. C'est eux qui commandent plus en ligne. Mais comme on laisse des références sur l'emplacement de la boutique, il y a des clients qui passent directement ou qui s'en procurent dans les différents points de vente.
D'accord. Madame Abdelaziz, parlez-nous de votre activité. Qu'est-ce que vous faites?
Au niveau de notre centre, nous faisons des sessions modulaires que je présente moi-même. On fait des sessions d'alphabétisation et des AGR. À mon niveau, je présente des sessions modulaires sur la compétence et les compétences des vies courantes, les santé de la reproduction, les droits de la femme et les compétences et les capacités financières. On recrute 100 filles à chaque cycle.
Du côté internet, qu'est-ce que vous faites?
Le 9 mars, on nous a invités quelque part avec les filles. On les a appris les WhatsApp business là, pour qu'elles puissent vendre leurs produits. Donc, on les a appris comment les exposer sur les réseaux sociaux.
D'accord. Et quel est l'objectif des formations que vous dispensez? Qu'est-ce que ces formations-là apportent aux jeunes filles, surtout l'internet? Vous avez dit que le 8 mars, vous avez été invité justement pour vous initier au numérique. Donc, est-ce que maintenant, vous le faites et quel changement ça apporte?
Elles ont eu beaucoup de changements. Elles ont publié leurs produits. Donc, on les appelle, elles amènent leurs produits.
À votre avis, elles sont plus à l'aise avec l'internet ou bien...
Oui, elles sont plus à l'aise.
Et selon vous, quelle est la place que le numérique peut apporter dans la promotion de la femme? Le fait maintenant qu'elle soit initiée au numérique, selon vous, plus tard, qu'est-ce que ça peut leur apporter?
Ça apporte beaucoup plus qu'avant, là, quand on faisait nos produits, on allait dans les marchés vendre. Mais maintenant, on met nos numéros sur les étiquettes, on les laisse aux commerçants. Quand ils ont besoin de nous, ils nous appellent, on les livre, ou bien ils viennent eux-mêmes chercher leurs marchandises.
D'accord. Et il y a beaucoup de personnes qui vous contactent depuis?
Oui, il y a beaucoup.
D'accord. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres de demandes que vous avez sur Internet faites par les femmes?
C'est des hommes qui achètent nos produits. Les hommes qui vendent les produits de le Mohari, là, c'est eux qui nous contactent le plus. Ils peuvent nous appeler, ils peuvent commander 200, 100 dégâts.
Depuis l'invitation, combien de femmes ont été initiées à l'Internet chez vous?
Chez moi, j'ai amené 15 filles. 15 filles de mon espace sûr.
Et elles ont toutes été intéressées ou bien il y en a qui sont un peu...
Elles ont toutes été intéressées. Donc, parmi elles, il y a celles qui n'ont pas de téléphone portable. Donc, elles ont juste suivi avec leurs amis.
D'accord. Madame Yasser, quels sont les avantages de l'autonomisation de la femme à travers le numérique?
Donc, concernant les avantages de l'autonomisation de la femme à travers le numérique, on peut citer, entre autres... la vente. Ça permet en fait aux différentes entreprises et aux jeunes, les entreprises dirigées par les jeunes femmes, de mieux vendre leurs produits et surtout plus vendre leurs produits. Parce que quand vous n'avez pas de lieu de vente, par exemple, ou quand vous n'avez pas beaucoup de lieux de dépôt, à travers Internet, même si vous êtes chez vous, vous pouvez vendre le maximum de vos produits tout en restant à la maison. Et il y a des femmes également qui n'ont pas cette facilité d'aller vers les commerçants ou même d'exposer. Donc, avec l'avènement du numérique, ça permet aux femmes de rester à la maison, faire leur commerce en ligne, mais aussi de s'occuper de leur maison sans problème. Donc, ça élimine déjà cette contrainte. Il y a également le fait de faire connaître nos différents produits un peu partout, parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer, aller par exemple à Dakar ou Burkina ou dans un autre pays pour se faire connaître. Avec le numérique, grâce aux différents réseaux sociaux, on arrive vraiment à parler, faire parler de nos produits, à faire la promotion de nos produits un peu partout. Il y a des clients qui ont testé une seule fois, mais qui ont gardé peut-être le nom de l'entreprise. Ils font une petite recherche sur Facebook ou je ne sais pas, une autre plateforme. Ils arrivent à nous contacter à travers ce canal. Alors, s'il n'y avait pas Facebook, s'il n'y avait pas ces différents canaux, peut-être que ça allait être un manque à gagner, un client à moins. Donc, c'est vraiment tout ça l'avantage que le numérique nous apporte aujourd'hui.
C'est le moment d'écouter des témoignages recueillis dans quelques régions du Niger.
J'ai de bonnes relations avec mes clients et ça marche bien, alhamdulillah. On ne se plaint pas. On s'en sort bien. On arrive à subvenir à nos petits besoins grâce à ce commerce en ligne. La seule difficulté, c'est avec nos grossistes. Souvent, quand tu leur envoies la photo, ils n'en voient pas la qualité. Ou souvent, c'est la mesure qui n'est pas au rendez-vous. Même si on leur envoie la marchandise, ça prend du temps avant qu'ils ne nous la renvoient à nouveau, jusqu'à ce que le client se fatigue. Souvent, il va même annuler la commande.
La chose qui nous a facilité les affaires maintenant, c'est les téléphones portables. Nous faisons nos commerces par WhatsApp. Nous vendons des boucles d'oreilles en or. Nous vendons des bassines, des tasses, toutes choses qu'une personne veut vendre et nous les apporte. On lui vend ça. Maintenant, Dieu nous a facilité là. Nous avions l'habitude de porter des choses sur la tête, faire les tours de la ville. Avant, si on voulait vendre les lits, on partait dire à la personne et elle venait les voir. Maintenant, vous avez le numéro de la personne et vous lui envoyez les images par WhatsApp. Il envoie aussi à quelqu'un, ainsi de suite. Dieu merci, nous sommes heureuses.
Nous avons de bonnes relations avec plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. C'est à travers ça même que nous vendons nos articles. C'est une bonne opportunité. Nous en tirons beaucoup de profit. Les problèmes que nous rencontrons, c'est au niveau des commandes. Comme nous sommes un peu éloignés avec les clients, souvent, quand tu envoies, la personne peut refuser de prendre la marchandise. Parfois, c'est aussi au niveau des grossistes. Souvent, ils ne respectent pas le choix des clients. Du coup, si le produit choisi n'a pas été envoyé à temps, la personne peut renoncer. Souvent, il te renvoie le produit et te dit qu'il n'est pas du tout satisfait.
J'ai souvent vu des choses sur les réseaux sociaux que j'aime, que ce soit des chaussures, des pagnes, des lèches ou des tasses. Le problème, vraiment, est qu'il y a beaucoup de défis. Pas seulement pour moi, pour beaucoup de femmes. Quand je voulais donner ma fille en mariage, je voulais acheter des choses. Je voulais donner l'argent quand une amie m'a conseillé de ne pas le faire, car elle a été victime et je ne l'ai pas fait. Une autre amie a envoyé son argent. Jusqu'à présent, elle n'a pas la marchandise. Vous envoyez l'argent, deux fois, on vous amène la moitié de la marchandise, puis on te dit la moitié est en cours. Ce n'est pas bien. L'avantage du commerce en ligne est que vous êtes assis sur votre lit, vous pouvez faire des affaires, tout ce que vous voulez. Envoyez de l'argent et on vous envoie la marchandise. Vous voyez, c'est facile et c'est dû au progrès.
J'ai de bonnes relations avec mes clients et ça marche bien, alhamdoulilah. On ne se plaint pas. On s'en sort bien. On arrive à subvenir à nos petits besoins grâce à ce commerce en ligne. La seule difficulté, c'est avec nos grossistes. Souvent, quand tu leur envoies la photo, ils n'en voient pas la qualité. Ou souvent, c'est la mesure qui n'est pas au rendez-vous. Même si on leur envoie la marchandise, ça prend du temps avant qu'ils ne nous la renvoient à nouveau, jusqu'à ce que le client se fatigue. Souvent, il va même annuler la commande.
Voilà, ce sont des témoignages qui ont été recueillis dans les régions d'Agadez, Zender et Maradi. Madame Abdelaziz, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on vient d'écouter?
En tout cas, les femmes, elles ont raison. Il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Les avantages, c'est que tu es à la maison, tu envoies ton argent, on t'envoie tes marchandises sans même te déplacer. Et les inconvénients, tu envoies ton argent, deux fois, c'est des escrocs. Tu n'auras pas tes marchandises et ton argent est parti. Ou bien, c'est que tu n'as pas choisi, c'est ça, on va t'envoyer. Donc, ce n'est pas intéressant. Avant, nos mamans voyageaient. Maintenant, tu es à la maison, tu envoies ton argent jusqu'à Dakar, Nigeria, on t'envoie tes marchandises. Donc, c'est ça l'avantage.
Mm-hmm.
Et l'inconvénient, tu envoies, on t'amène.
Tu n'es jamais sûr de ce que tu vas recevoir, en fait.
Ou bien tu mets statut, quelqu'un va choisir un panier, tu l'envoies. Sur le téléphone, c'est joli, mais quand il voit ça dehors, c'est pas ça. Dis-moi, je pensais pas que le pain était comme ça. Donc, c'est ça les inconvénients.
D'accord. Madame Yasser, qu'est-ce que vous pensez des témoignages que nous venons d'écouter?
Les femmes, je partage vraiment l'avis de beaucoup de femmes parce que j'ai eu aussi ma petite expérience par rapport aux inconvénients du numérique. D'abord, les avantages. C'est vraiment le numérique aujourd'hui, il nous permet de passer des commandes à distance. Et par exemple, pour ma part, j'ai eu à faire des commandes jusqu'en Chine sans connaître le fournisseur. Et c'est arrivé dans de très bonnes conditions. Mais pour l'autre côté aussi, j'ai eu à faire une mauvaise expérience. J'ai commandé en ligne au Bénin et le fournisseur, jusqu'à aujourd'hui, j'ai une partie de mon argent qui n'est pas revenue. Donc, il y a toujours cette inquiétude, en fait. C'est vrai que le numéro qui nous permet, il nous facilite la vie. Mais également, derrière ça, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a vraiment des pièges parce qu'il y a des personnes qui se cachent derrière le numéro pour faire certaines transactions ou pour ouvrir des entreprises fictives et ils arnaquent les gens. Donc ça aussi, c'est vraiment le problème auquel nous sommes confrontés.
Mm-hmm.
Donc ça nous facilite la vie, mais quand on veut passer des commandes également, il y a cette crainte de est-ce que la personne est sûre ou pas, parce que toi, tu ne peux pas te déplacer et tu n'as pas forcément quelqu'un dans la ville où tu veux commander, qui peut aller te vérifier si le fournisseur est crédible ou pas.
Mm-hmm.
Donc, c'est tout ça.
Donc, quand on met sur la balance, il y a plus d'inconvénients ou bien d'avantages dans le commerce en ligne?
Il y a plus d'avantages.
Plus d'avantages.
Il y a beaucoup d'avantages. Il faut peut-être juste être sur ses gardes et c'est, voilà, prendre ses précautions. Voilà, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Mais vraiment, le numérique, il a beaucoup plus d'avantages, à mon avis, que d'inconvénients.
Justement, pour éviter toutes ces difficultés qui ont été soulevées dans ce débat, quels sont les défis que les femmes doivent relever, les femmes qui sont présentes, actives sur le numérique?
Je pense que c'est peut-être mettre en place un mécanisme qui permettrait d'avoir une base de données de fournisseurs crédibles. Par exemple, on a toutes nos petites expériences, chacune a son fournisseur, soit au Bénin, au Nigeria, au Burkina, en Chine, un peu partout dans le monde. Donc, se concerter peut-être, ou bien s'il y a déjà une entreprise ou une structure qui s'occupe de ça, vraiment mettre nos forces ensemble pour créer une base de données solide, de fournisseurs crédibles. Je sais que si j'ai besoin d'emballage dans telle région, je vais l'avoir avec tel fournisseur et peu importe le montant que je vais lui envoyer, je vais recevoir ma marchandise. Si j'ai besoin de matières premières, je sais où aller. Je sais que le fournisseur, il est crédible. Par exemple, nous sommes dans la transformation. Il y a beaucoup de femmes rurales qui cultivent nous ce que nous transformons. Donc peut-être mettre un écosystème en place qui va nous permettre de... C'est comme un réseautage, voilà. C'est un réseautage entre ces femmes ou ces hommes cultivateurs et cultivatrices, avec nous, les entrepreneurs. On est sûr de la provenance de la matière première et aussi on est sûr du fournisseur. Donc, c'est peut-être ça. On n'a pas trop ce problème quand c'est local. Le problème, c'est plus quand c'est de la zone, de les pays voisins ou bien en Europe ou quelque part.
Madame Abdelaziz, en tant que mentor, en tant que formatrice, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à vos bénéficiaires de faire pour éviter de se faire arnaquer?
Si, par exemple, toi, tu es au Niger, ton fournisseur, il est au Nigeria. Donc, toi, tu as eu confiance à lui, tu lui envoies l'argent avant qu'il t'envoie les marchandises. Donc, est-ce qu'on ne va pas dire de nous envoyer les marchandises, après on va vous envoyer l'argent. Mais le refuse, ou bien la moitié, tu envoies la moitié de ton argent, quand ton marchandise sera livrée, tu lui complètes l'argent.
Madame Yasser, donc tous les produits que vous utilisez viennent de l'extérieur. C'est l'un des défis, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir tout ce dont vous avez besoin sur place?
Pour l'instant, c'est comme vous l'avez dit, c'est un défi à relever. On n'a pas tout ce dont on a besoin vraiment sur place parce qu'il y a des choses, on n'a pas ça localement. D'accord. Par exemple, même les emballages, on est obligé de commander au Burkina ou bien au Bénin ou même en Chine. Donc, on n'a pas d'industrie qui nous permette vraiment d'accéder à ces différents produits ici. Donc, c'est un défi à relever. Mais par contre, pour la matière première, on travaille beaucoup avec des femmes qui sont ici, des fournisseurs locaux. C'est au niveau des emballages ou d'autres produits qu'on prend à l'extérieur.
Avec l'Internet, les femmes essaient de s'imposer dans tous les secteurs ces dernières années, surtout les femmes dans l'entrepreneuriat. Mais qu'en est-il de ces femmes rurales, elles qui œuvrent surtout dans la production agricole et la transformation des produits alimentaires? Sont-elles aussi concernées par cette innovation qu'est le numérique ou bien elles sont laissées pour compte?
Elles devraient être concernées. Avant même de parler du numérique, il faut parler de l'accès déjà à la connexion, l'accès à l'électricité. Donc je pense que c'est ça surtout le problème. Il y en a qui n'ont pas de téléphone portable qui peuvent leur permettre justement d'accéder à ces différentes plateformes. Et il y a aussi le niveau scolaire. Elles ne sont pas forcément scolarisées. Donc c'est également un blocage. Et même si elles sont scolarisées, peut-être que c'est un outil qu'elles ne maîtrisent pas forcément ou dont elles ne voient pas l'impact direct. Parce que nous, à l'inverse des femmes rurales, on a plus cette facilité à communiquer sur les réseaux sociaux, à prendre des images, présenter nos produits. Une femme rurale qui va cultiver, qui doit s'occuper du champ, qui doit s'occuper de la maison, tout ça là, c'est vraiment très compliqué pour elle de revenir encore, utiliser un téléphone, faire la promotion de ses produits. Et généralement, ces femmes rurales, elles ont déjà des commerçants, par exemple, qui vont acheter pour venir revendre en ville, ou bien des projets qui vont acheter même leurs produits déjà transformés, des projets qui les forment. Elles transforment le produit et ces derniers achètent pour revendre. Elles ont, si on peut le dire, un débouché déjà. Elles peuvent écouler leurs produits sans pour autant passer par le numérique.
Elles n'ont pas besoin du numérique.
Moi, je pense que ça peut être mieux avec le numérique, mais c'est plus compliqué pour elles.
D'accord. Madame Abdelaziz, est-ce que dans vos formations, vous pensez à ces femmes rurales?
On a des espaces sûrs dans les régions de Tillabéri, les autres régions.
Vous vous êtes mise au numérique il y a quelques jours, le 8 mars. Est-ce que dans vos projets, vous avez prévu d'impliquer aussi les femmes rurales?
Oui. C'est prévu. C'est prévu de les impliquer.
Et comment comptez-vous vous y prendre?
Avec des petites formations qu'on avait eu à faire avec les filles de Niamey.
Vous allez vous déplacer dans les zones. D'accord. Le projet technologique s'accompagne aussi de nouvelles formes d'inégalité et de menaces pour leurs droits et leur bien-être. Quels sont justement les droits des femmes et des filles dans l'utilisation du numérique, Madame Yasser?
Je pense que c'est peut-être nous donner cette protection. Déjà par rapport à l'utilisation du numérique, parce qu'on rencontre beaucoup de personnes qui sont là pour faire des commentaires, des fois pour casser l'entreprise, qui n'ont pas forcément une expérience avec l'entreprise, mais qui sont là pour casser l'entreprise, dénigrer les produits par exemple. Et il y a aussi ces gens, comme je vous l'ai dit, qui rentrent en contact avec nous, des personnes que nous ne connaissons pas, qui sont peut-être des arnaqueurs, des escrocs qui même ils passent commande, ils peuvent dire qu'ils vont commander une tonne et tout Pour ma propre expérience, moi j'ai été victime, un monsieur qui m'appelle, il voulait commander des épices de thon. Mais après des échanges avec eux, ils vont vous dire qu'il faut payer une garantie. Et si par hasard, vous hasardez à lui envoyer l'argent, vous n'allez plus entendre parler de la personne. Je ne sais pas s'il y a une protection qui peut être mise par rapport à ce genre de choses. Un filtre peut-être, par exemple, je ne sais pas. Mais c'est des propositions comme ça, et puis c'est des protections comme ça dont on a besoin dans nos petites activités, vraiment, parce qu'on a pas mal d'expériences négatives.
D'accord. Et maintenant, place au portrait de Jamilatou Ibrahim, directrice générale de Mediatek, une structure qui crée des applications justement sur le site web.
Âgée de 42 ans, mère de 4 enfants, Madame Adamou Jamila Ibrahim est titulaire d'un Master 2 en ingénierie financière. Après avoir occupé plusieurs postes en France et au Niger, Madame Jamila a rejoint une filiale de Mediasoft Lafayette appelée Mediatek en 2021 au Niger. Elle nous raconte les raisons qui l'ont motivée à intégrer ce groupe Mediatek.
Alors, lorsque je m'étais mariée, je suis partie en 2009 rejoindre mon mari. Et j'ai travaillé d'abord dans la société où mon mari travaillait. C'est une société de gastronomie de luxe, Le Nôtre, Paris. Et à la suite d'un concours, parce que Free voulait lancer, l'entreprise de Xavier Niel voulait sortir les solutions mobiles. Parce qu'à l'époque, en France, en fait, une heure d'appel coûtait très cher. Hein. Vous avez l'abonnement, vous êtes engagé pendant 2 ans, vous ne pouvez rien faire, vos factures augmentent. Lui, il a pensé et il s'est dit pourquoi ne pas mettre une solution qui sera adaptée à toute la couche de la population française. Et il lançait un concours. Donc, il y avait un concours pour pouvoir intégrer la nouvelle entreprise, la nouvelle aventure. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et je suis restée là-bas durant 10 ans. Quand je suis revenue au Niger, j'ai travaillé pour le CIPMEN pendant près de 2 ans. Entre-temps, cette entreprise était ici au Niger et je faisais de la consultance pour eux, puisque en même temps que je travaillais au CIPMEN, je faisais de la consultance pour eux ici. Et après, le PDG était venu. Un jour, on était venu, je lui faisais les points des actions que je faisais. Et puis il me dit, et si vous nous rejoignez? Et puis, j'ai dit, sérieux? Et puis, il dit, bon, c'est quel poste je prends? Puisque à CIPMEN, j'étais responsable de communication. Je voulais que je fasse la communication par rapport. Il dit, non. Je voudrais que vous soyez, parce que vous avez des idées qui peuvent nous aider, nous, à nous implanter ici. Et puis, vous êtes fan de tout ce qui est digitalisation, tout ce que vous faites, ce que vous utilisez, c'est le digital, vous comprenez l'importance du digital. Et puis je dis, pourquoi pas? Et c'est comme ça que j'ai rejoint Mediatek et jusqu'à aujourd'hui, vraiment non, je ne regrette pas d'être revenue à mon cœur de métier.
Madame Adamou Jamila Ibrahim est actuellement la directrice générale de Mediatek. Elle est aussi la première responsable. Elle nous en dit plus sur Mediatek.
Alors, Mediatek, nous sommes à la fois éditeurs, intégrateurs et agrégateurs de solutions informatiques. Par exemple, pour les banques, nous proposons des core banking, ou même quand les banques, elles ont déjà leur core banking, nous, on a des solutions qui leur facilitent, par exemple, leur travail. Voilà. Nous mettons en place, par exemple, des systèmes de virement. Toi, en tant que chef d'entreprise, tu es tranquillement assis sur ton bureau, tu te connectes puisqu'on crée les applications web et mobile. Depuis ton application web ou mobile, tu peux programmer des virements pour tes employés ou bien pour tes partenaires sans pour autant écrire un ordre de virement que tu transmets à la banque pour que la banque initialise ça. Et puis, ils ont des solutions qui changent le quotidien du personnel. Les solutions qu'on propose, ça permet un gain de temps pour les chargés de clientèle. Une opération que tu peux mettre 4 heures ou une journée pour la faire aujourd'hui en ayant comment mis un système d'information qui te facilite tes tâches. En moins de 30 minutes, tu as pu finir ta tâche. Tu peux vaquer à autre chose. Je suis satisfaite quand les clients pour lesquels je travaille sont satisfaits. Le client m'appelle pour me dire « Ah, j'ai rencontré telle difficulté. » Tant que nos techniciens ou nos développeurs n'ont pas trouvé de solution, je ne suis pas tranquille, je ne suis pas satisfait.
Monsieur Mohamed Bala Abdul Wahab et Monsieur Youssouf, les collaborateurs de Madame Adamou Jamila, apprécient son travail et leur collaboration.
Je tiens à souligner que j'apprécie grandement de travailler avec Madame Jamila tout et j'apprécie aussi son travail, car c'est une personne dotée d'une très très grande humanité et d'une générosité très immense. Ses compétences et son professionnalisme qui se reflètent aussi dans la qualité de son travail. Elle fait preuve d'une communication claire et efficace, et ses excellentes compétences relationnelles lui permettent vraiment de travailler harmonieusement avec nous malgré notre jeune âge et notre manque d'expérience. Aussi, son engagement envers la réussite et l'amélioration continue est un de ses véritables atouts qui nous profite à tous, qui nous incite toujours à vouloir aller de l'avant.
J'avoue que vraiment Madame Jamila me soutient autant que mon soutien envers elle. Je soutiens vraiment ce qu'elle exerce, surtout sa manière de voir les choses, sa rigueur vis-à-vis d'elle, son courage. Vraiment, je la trouve très ouverte. Cette qualité fait d'elle une manager digne de son nom. Quant au métier qu'elle exerce, je pense que Madame Jamila est vraiment dans le camp des perfectionnistes.
Oser, persévérer et croire en soi sont les bonnes voies pour réussir, a déclaré Madame Jamila Ibrahim. Personne ne peut faire quelque chose à votre place, on doit se donner pour occuper un poste.
Comment manœuvrer vers un avenir numérique équitable pour ces femmes et ces filles?
Je pense qu'il faudrait déjà l'inclure dès le bas âge, apprendre aux jeunes filles à manier l'outil numérique sans problème. Parce que beaucoup de femmes, le problème qui se pose, elles n'ont pas eu accès au numérique plus tôt, ce qui fait qu'elles sont déphasées. Actuellement, elles ne peuvent pas l'utiliser, elles trouvent que c'est pour la génération plus jeune. Donc vraiment, ça serait bien qu'on puisse l'inculquer aux jeunes femmes très tôt. Mais aussi l'accès au numérique en multipliant les centres. Par exemple, avant, il y avait beaucoup de cybercafés. Et même si tu n'as pas de téléphone, tu sais que tu peux aller au cyber. Alors que maintenant, on ne voit pas trop ça. Mais c'est l'avènement des téléphones portables aussi, c'est ça la différence. Donc, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer le téléphone, s'il y a des centres où elles peuvent accéder au numérique, elles peuvent aller le faire. Payer peut-être pour la prestation ou même... Si c'est gratuit aussi, elles peuvent au moins accéder et faire leur activité, même si c'est sur une période donnée. Et aussi, former les jeunes femmes sur l'utilisation du numérique. Comme je vous le disais, on a eu à faire des formations avec la Chambre de commerce. Mais je pense qu'il y a plusieurs incubateurs qui sont là, qui peuvent accompagner les femmes et qui sont prêts à aller dans ce sens. Donc, maximiser sur la formation des jeunes femmes qui sont déjà dans l'activité et qui n'ont pas de notion sur les différentes plateformes qu'elles peuvent utiliser. Et sur l'impact, il faut qu'on leur montre vraiment l'importance que ça peut leur permettre d'accroître leur chiffre d'affaires, ça peut leur permettre de se faire connaître, d'avoir beaucoup d'opportunités et d'ouverture grâce au numérique.
Madame Abdelaziz, je vais revenir sur le portrait qu'on vient d'écouter. Vous qui venez justement de connaître le numérique, est-ce que vous prévoyez peut-être de voir à des organisations, des agences comme Mediatek, parce qu'ils créent des plateformes pour les différentes entreprises qui peuvent vraiment faciliter le travail dans un domaine bien déterminé?
Le 8, quand j'ai amené les filles, parmi les 15 filles que j'ai amenées, il y a qui, sur les 15, 8 n'ont même pas de portable Android.
Madame Yasser, comment améliorer les politiques et les droits pour les femmes en ligne, la gouvernance et la création de débouchés économiques qui les rendent plus autonomes par la mise à l'essai et le déploiement d'innovations numériques pour des débouchés économiques de ces femmes à travers le numérique?
Donc, comment rendre les femmes plus autonomes à utiliser le numérique?
Voilà.
Comment améliorer leurs conditions d'utilisation? Je pense que c'est ce dont on a déjà parlé.
Comment rendre les femmes
plus autonomes à utiliser le numérique?
Oui, plus autonome. Et comment pousser ces femmes à aller vers le numérique pour leur autonomisation?
Alors, pour l'autonomisation des femmes, je pense qu'il faut d'abord une prise de conscience au niveau de ces femmes. Il faut une prise de conscience. Il faut les amener à comprendre l'avantage et l'impact. Et ceci n'est possible qu'à travers des formations, des sessions de formation. On ne parle pas de femmes rurales. Là, on parle des femmes qui sont dans la ville, qui exercent déjà leur activité et qui n'ont pas forcément accès peut-être au numérique ou qui ont accès, mais qui ne l'utilisent pas à bon escient. Donc, pour ces femmes, il faudrait, je pense, comme je l'ai dit, c'est les former. Vraiment les amener à comprendre, faire des tests. Et celles qui n'ont pas accès, mettre à disposition des outils numériques, que ce soit des ordinateurs, des tablettes ou des téléphones portables qui vont permettre à ces femmes de manier vraiment et de maîtriser l'utilisation des différentes plateformes comme le WhatsApp Business, Facebook, Instagram et d'autres réseaux sociaux qui nous permettent de booster notre chiffre d'affaires.
Madame Abdelaziz, parlant de formation, qu'est-ce que vous faites justement pour amener ces filles à vouloir se faire former à votre niveau?
On les recrute, on fait des porte-à-porte avec l'aide du chef du quartier. Et on a des marraines qui s'occupent de nous rapprocher vers les parents des filles. Donc on les recrute, on recrute plus de 200. Donc, il y a des critères. On prend les orphelines des pères et des mères, les orphelines des pères ou des mères, ou celles qui ne vont pas à l'école. Donc, on prend les filles de 10 à 19 ans. Les 10 à 19 ans, là, on prend celles qui ont perdu leurs deux parents ou bien un seul parent. C'est elles qu'on favorise le plus.
Vous venez juste d'entamer le numérique. Et comment comptez-vous faire pour amener les filles à s'intéresser à cela?
On a créé un groupe, un groupe WhatsApp. Donc, toutes les filles sont dedans. Donc, elles ont créé, elles aussi, leur propre groupe. Donc, avec leurs contacts, elles arrivent à publier leurs produits.
Et avec ça, pensez-vous qu'elles arriveront, ces filles, ces jeunes filles, à être autonomes?
Oui, oui. Elles sont déjà autonomes.
D'accord. Et quel plus pensez-vous que l'Internet va vous apporter?
Ça va beaucoup nous apporter. Surtout quand on nous aide, quand elles seront formées, bien formées. Donc, il y a quelques jours qu'elles ont même appris ça. Même le WhatsApp au business, il est 8 de ces mois qu'elles ont même appris. Il y a beaucoup qui n'ont même pas. Et qui n'ont jamais appris ça. C'est le jour-là qu'elles ont commencé.
Un résumé dans ce qu'on vient de se dire, de l'apprentissage en ligne à l'activisme numérique, l'ère numérique crée des opportunités sans précédent pour l'autonomisation des femmes et des filles. Les femmes et les filles restent sous-représentées dans l'univers technologique, que l'on parle du développement de nouvelles technologies, de leur utilisation ou de la réglementation qui les régit. Une telle situation entrave non seulement leur propre indépendance dans la sphère numérique, mais aussi le potentiel transformateur de la technologie dans son ensemble. Toutefois, elles font face à des difficultés qui suscitent beaucoup de vigilance. Ici se termine ce forum. Merci chers invités d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous fidèles auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. C'était Rafika Taher à la présentation, à la technique Amina Hassan. Rendez-vous mardi prochain pour un autre débat. Mais avant de nous quitter, place à notre rubrique Affairage qui va porter sur le baptême d'un nouveau-né. Excellente soirée à tous et au revoir.
Affairage, 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 affairage. Affairage.
Assalamu alaikum. Il y a quelqu'un ici?
Wa alaikum assalam. Ma chérie rentre.
Oui, oui, oui. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Comment tu vas, ma copine?
Tu ne sais même pas. Je vais bien, Dieu merci. Dis-moi, d'où viens-tu sous ce chaud soleil?
Je viens de chez mon amie Léla. Elle a accouché hier, donc je suis allée la féliciter.
Ah, quelle bonne nouvelle! Mais toi aussi, ce n'est pas une raison pour circuler sous ce chaud soleil.
Là, tu as parfaitement raison. Mais bon, c'est la seule journée que j'ai de libre. Donc, j'en ai profité.
Ah, je vois maintenant. Sinon, tu as quelle nouvelle pour moi?
Ma belle, je n'ai aucune nouvelle. Mais tu sais quoi?
Dis-moi, ma chérie.
Moi, je ne comprends plus la nouvelle génération.
C'est-à-dire? Explique-toi, afin que je puisse comprendre.
Tu vois? Avant, quand nous étions enfants, c'est seulement le jour du baptême que l'on commence à appeler le bébé par son nom. Et le baptême se faisait juste 7 jours après l'accouchement. Alors que, de nos jours, c'est dès la naissance qu'on commence à appeler l'enfant par son nom et on assiste au fait que les gens repoussent les baptêmes.
Ah, et tu trouves cela bizarre?
Bien sûr. À mon avis, les gens devraient suivre nos traditions, nos coutumes et notre religion.
Ah, là tu te trompes. Tu confonds religion et coutume.
Je n'ai pas compris. Ce n'est pas la religion qui interdit de dire le nom de l'enfant jusqu'au jour du baptême et de respecter la date du baptême.
Non, justement. C'est pourquoi je t'ai dit que vous avez tendance à confondre religion, coutume et tradition. Tu sais, rien qu'avant-hier, j'ai eu cette discussion avec un ulama.
Ah bon? Explique-moi alors.
Dans la religion islamique, on peut appeler un enfant par son nom dès la naissance. Et on peut aussi reporter la date du baptême. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le baptême le septième jour après la naissance. Et il n'existe aucun verset ou hadith qui interdit de repousser la date du baptême. Parfois, il peut avoir qu'une personne manque de moyens pour acheter le mouton et tu sais qu'il est dit dans le Coran que Dieu n'impose à aucune âme une charge qu'elle ne peut supporter. Donc, on peut repousser le baptême jusqu'à ce qu'il trouve l'argent du mouton du sacrifice.
Ah, je comprends mieux. Donc, depuis tout ce temps, nous faisions une énorme confusion.
Voilà. Tu sais, avant l'avènement de l'islam, nous avions des coutumes et des traditions. Et depuis lors, il nous arrive de faire l'amalgame, d'où l'importance de chercher à comprendre et faire la différence.
Tu vois, si j'étais restée à la maison aujourd'hui, je n'aurais pas appris tout cela. D'où l'importance de circuler en ville. Je te remercie vraiment de m'avoir édifiée sur ce sujet.
Je t'en prie, ma belle. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour toi.
Bon, il se fait tard. Je vais demander la route.
D'accord, ma chérie. Je t'accompagne alors.